Les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous. Dans moins de 5 minutes, ça a le plus avec Claire Morin-Gibourg. Mais tout de suite, l'actualité. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'offensive de l'armée congolaise contre les FDLR est sur le point de commencer. C'est ce qu'affirme la mission onusienne en RDC, la MONUSCO, lors d'une conférence de presse à Goma. Les rebelles hutu-rwandais avaient jusqu'au 2 janvier pour désarmer. Ils encourent désormais un désarmement de force. Lutte contre Boko Haram, le Nigeria ne peut plus agir seul, estime l'envoyé spécial de l'ONU pour la région, cité par l'AFP. Hirut Gebrselassie souligne que le Sahel est aussi sous la menace des islamistes nigériens et appelle le Nigeria à être mieux disposé vis-à-vis de la force militaire régionale créée fin 2014 par 6 pays de la région. À Nairobi, les rebelles de l'Est Coalition Seleka et les miliciens Tibalaka sont parvenus à un accord de cessez-le-feu, de cessation des hostilités et de DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, à l'issue des pourparlers auxquels les autorités de Bangui n'ont pas été associées. Félix Yepassis Zemrou a joint Mustapha Sabon, le porte-parole de l'Est Seleka dans la capitale kényane.
Dans la deuxième phase, je pense que le gouvernement et puis les partis politiques, la société civile seront impliqués. Donc il faut que ce soit un processus inclusif. Sinon, nous allons tomber toujours dans l'éternel recommencement. Donc ce n'est pas le but. Si vous voyez bien, nous avons passé plus de 2 mois ici à Nairobi, au Kenya, en quête d'une paix durable pour amener d'abord la sécurité, et une sécurité durable également, pour pouvoir amorcer maintenant le processus démocratique tant souhaité par le peuple centrafricain.
Sabon Mustapha, cet accord va entrer dans le processus du forum inclusif qui se tiendra à Bangui. Ça veut dire que vous serez présent à Bangui?
Mais nous avons dit en temps et lieu, d'ailleurs même le G8 qui représente la communauté internationale à Bangui était présent lors du congrès de Kagabandoro. Nous l'avons bien dit clairement et même sur les ondes. Nous n'allons plus jouer maintenant à la politique des chaises vides. Nous allons bel et bien prendre part au forum de Bangui. Raison pour laquelle nous avons mis une coordination politique en place. Mais malheureusement, ce qui est en train de se dessiner, c'est comme si c'est un forum exclusif qui est en train de se dessiner, malheureusement. Alors, si nous avons quitté, nous avons décidé de quitter notre centre d'opération, quitter la République centrafricaine, et venir jusqu'ici à Nairobi, c'est pour chercher la paix. Oui. Donc cette paix, je pense que nous sommes déterminés. Nous demandons à la majorité silencieuse africaine de nous accompagner pour ramener enfin cette paix tant souhaitée par le peuple centrafricain.
Mustapha Sabon, le porte-parole de l'ex-Seleka dans la capitale kényane. Attaque contre l'école américaine de Tripoli en Libye. D'après l'AFP, la grenade lancée par un inconnu n'a pas explosé, mais l'établissement a tout de même été évacué.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La FNUL, la force des Nations Unies dans le sud du Liban, a confirmé ce mercredi la mort d'un casque bleu dans des circonstances qui n'ont pas été précisées. Un drame qui survient après un nouveau regain de tension entre Israël et le Hezbollah qui a attaqué un convoi de Sahel à la frontière libanaise. Retombée de la situation en Ukraine, l'Union européenne envisage des sanctions individuelles renforcées, mais les sanctions économiques imposées à la Russie ne vont probablement pas changer. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a prévenu que l'escalade actuelle va inévitablement provoquer une grave détérioration des relations entre l'Union européenne et la Russie, indique l'AFP. Au Yémen, la situation reste très tendue. Près d'une semaine après la démission du président Abdi Rabo Mansour Hadi et de son gouvernement, ce mercredi, une manifestation contre la prise de la capitale par la milice chiite Houthi a été perturbée par les forces rebelles. Selon l'AFP, qui cite des témoins sur place, les miliciens ont attaqué les manifestants à coups de poignard et de gourdin. C'est la troisième fois depuis dimanche que les Houthis dispersent par la force une manifestation à Sanaa. Les frappes de l'armée pakistanaise contre les bases de militants présumés dans le nord-ouest du Pakistan ont tué au moins 76 militants. Ce bilan publié aujourd'hui par les militaires précisait que des combattants étrangers se trouvaient parmi les victimes. Plus de 2000 militaires, environ 200 soldats ont été tués dans le cadre de l'offensive militaire lancée en juin dernier dans le Waziristan, non loin de la frontière afghane. Et puis enfin, il y aura un nouveau représentant aux Nations Unies. Il s'agit de Gholam Ali Khosrou, actuellement ambassadeur en Suisse. Il a été nommé aujourd'hui, les États-Unis ayant refusé d'accorder un visa à un autre diplomate choisi pour le poste depuis 9 mois. Et puis pour terminer finalement, le Parlement rejette la majorité des 19 personnalités proposées par le président Achraf Ghani pour le nouveau cabinet ministériel, 4 mois après l'accord pour le partage du pouvoir de M. Ghani et de son rival Abdullah Abdullah. Le pays reste sans gouvernement.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui, au sommaire, situation délétère au Mali, les attentats et les affrontements se multiplient et les forces onusiennes sont décriées par la population. La Guinée-Bissau a manifesté contre Boko Haram. Stop Boko Haram ! Stop ! Stop Boko Haram ! Stop ! Nous entendrons le reportage de Noua Mankali à suivre. Au Niger, réaction de la communauté chrétienne après les incendies des églises suite à la parution des caricatures du prophète. Rubrique éducation, réouverture des écoles en Guinée et au Libéria.
Ma crainte, c'est que si les enfants vont à l'école et reviennent avec l'Ebola, nous nous sentirons mal.
Et enfin, nous terminerons par la rubrique culture. Le rapport mauritanien Amada est sous les verrous. Nous ouvrons l'émission avec le Mali. Hier à Gao, à l'appel des mouvements de la plateforme, les jeunes ont pris d'assaut les locaux de la MINUSMA pour dire non à la zone temporaire de sécurité signée le week-end dernier entre la MINUSMA et la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Le bilan est de 3 morts et 11 blessés, dont 4 graves. Notre correspondant à Gao, Boubacar Touré, a pu rencontrer Boubacar Diko, le président des mouvements de la plateforme de Gao.
Quand dans des situations comme ça, dans des zones de crise, les populations sont stables, c'est que aujourd'hui, ce n'est caché pour personne que chaque communauté est défendue par ces mouvements armés, qu'on appelle notamment des milices. Quand on demande à ces milices-là de déguerpir Tabankort, c'est pour faire de la place simplement à Mnela. On leur demande de déguerpir et que la MINUSMA allait faire une zone tampon au niveau de Tabankort. Et on a su que là où la MINUSMA a mis des zones tampons, ils coopèrent avec le Mnela. Donc on s'était dit que c'est un danger.
Je crois que les manifestations ont été violentes. Est-ce que vous avez un bilan ?
Je commencerai par présenter mes condoléances aux familles des victimes et prompt rétablissement à tous ces blessés. Nous n'avons jamais souhaité que ça se passe comme ça. On a compté malheureusement 3 morts et 7 blessés graves et d'autres qui sont blessés par gaz lacrymogène. J'ai dit franchement c'est déplorable. Nous n'avons jamais souhaité que ça se passe comme ça. Mais ce que je dois ajouter, c'est que vraiment ces populations, après tout ce qu'ils ont vu, les populations sont déterminées plus que jamais à défendre ces communautés.
Et la suite des événements ?
Moi, personnellement, j'ai eu le ministre Sada Samaki au téléphone. J'ai eu le directeur national de la police Kansai qui nous ont rassurés qu'ils seront là et toutes nos préoccupations seront prises en compte. Nous, responsables de cette histoire, nous leur demandons de rester sur place jusqu'à nouvel ordre. À nouvel ordre, c'est quoi ? Nous attendons juste ces autorités pour qu'ils nous disent exactement quel est l'objet de leur visite et quelle est la solution qu'ils ont pu obtenir de ces forces qui sont venues, certes, nous appuyer. Mais quelque part, ils ont fait pour une fois une fausse note. Et peut-être avec notre administration, ils vont rectifier le tir.
Comment vous expliquez 48 heures avant, vous êtes sorti vous-même pour soutenir la mission des Nations Unies par rapport à une situation de Tabankort et vous faites volte-face pour vous manifester contre l'amnistement?
Bon, on est sorti quand même d'abord pour soutenir, s'il faut le dire, l'amnistement pour tous ceux qui sont en train de faire depuis qu'ils sont là, y compris l'acte de Tabankort. Parce que j'avoue que ces jours-là, s'ils avaient laissé peut-être les combats continuer à Tabankort, celle-ci, là où ça pouvait nous amener. On est sorti, on a apprécié vraiment tout ce que l'aménagement est en train de faire. Et si le lendemain, nous-mêmes, nous sommes contre l'aménagement, franchement, c'est que le comportement de l'aménagement nous a échappé et on a tenté, nous-mêmes, de rectifier le tir, que ça ne soit pas comme ça. Mais franchement, l'aménagement, cette fois-ci, ils ont passé à côté, ils ont tiré à terre.
Boubacar Diko, le président des mouvements de la plateforme de Gao. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 102 FM à Bamako. « La Guinée-Bissau a manifesté le week-end dernier contre Boko Haram. Affirmant être solidaire de la population nigériane, la Ligue Bissau-Guinéenne des droits de l'homme a organisé à Bissau une marche de 10 km allant de l'aéroport au palais présidentiel, appelant à stopper Boko Haram. Une marche qui a eu un certain succès puisque plusieurs milliers de personnes étaient présentes, ainsi que le Premier ministre. Reportage à Bissau de notre correspondant Noua Mankali.
Stop Boko Haram, un slogan utilisé par les manifestants depuis le début de la marche qui a commencé à l'aéroport international Oswald Vieira jusqu'au palais présidentiel, soit 10 km de marche.
Stop Boko Haram! Stop! 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 Stop Boko Haram!
Face aux milliers des manifestants, Claudia Tavares Viegas, porte-parole de la Ligue Bissau-Guinéenne des droits humains, n'a pas caché son inquiétude face à cette attaque du groupe Boko Haram.
La Ligue Bissau-Guinéenne est tellement choquée avec les récents événements au Nigeria, les attentats de Boko Haram. À cause de ça, on a décidé de faire une marche de solidarité. La marche a été organisée avec la Direction générale des sports. On est ici aujourd'hui pour montrer au monde, à l'Afrique, que nous sommes tellement solidaires avec la situation, que nous sommes tellement choqués. On ne doit pas être insensible et indifférent à ce type de situation. C'est à cause de ça qu'on a décidé d'organiser la marche. Et nous remercions à tous pour la participation. Je dois dire que c'était une participation massive. Ça démontre que les Bissau-Guinéens sont un peuple solidaire. Les Africains en général sont un peuple solidaire et je pense que ça a été bien marqué aujourd'hui.
Présent à la marche, l'ambassadeur du Nigeria dans le pays, Ahmed Adams, a considéré que cette manifestation montre la solidarité de la population bissau-guinéenne à celle du Nigeria.
Oui, on est très content pour ça parce que ça montre que la Guinée-Bissau, c'est derrière Nigeria dans le problème de Boko Haram. On est très content pour il nous a bien soutenus et ça montre qu'il y a de l'unité entre les pays membres de CDA. Donc, on est vraiment très, très content et on remercie tout le peuple de Guinée-Bissau, le gouvernement de Guinée-Bissau.
C'est la deuxième manifestation antiterrorisme promue par la Ligue Bissau-Guinéenne des droits de l'homme après celle contre l'attaque sur le journal français Charlie Hebdo. Noua Mankali, Bissau, la voix de l'Amérique.
Après les sanglantes manifestations au Niger, suite à la publication des caricatures du prophète Mahomet par l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo, la communauté chrétienne locale pense ses plaies. Les instances catholiques et protestantes du pays ont mis en avant le pardon qu'elles accordent à tous les auteurs d'actes de vandalisme et de profanation des églises, mais aussi des domiciles de certains croyants. Les structures chrétiennes ont toutefois demandé aux autorités de penser à dédommager les victimes. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Elles ont été parmi les principales victimes des manifestations des 16 et 17 janvier dernier. Un premier bilan dressé fait état de 68 églises et maisons de chrétiens brûlées. Malgré tout, les valeurs du pardon et du respect du sacré ont été les maîtres mots de la déclaration qu'elles ont rendue publique. Révérend Sabo Achabi de l'Alliance des églises et missions évangéliques du Niger.
Demandons à chaque citoyen de ne plus s'attaquer aux lieux de prière et d'adoration dédiés à Dieu, adressant à Dieu des supplications afin qu'il accorde son pardon à tous ceux qui ont pris part à ces événements. Demandons aux chrétiens d'accorder le pardon à leurs parents, voisins et frères de sang qui ont pris part à ces douloureux événements. Appelons toute la population du Niger à se lever comme un seul homme pour promouvoir la paix et la coexistence pacifique de tous les fils et de toutes les filles de ce pays. Malgré notre profond ressentiment de nous sentir réfugiés dans notre propre pays, nous appelons vivement l'ensemble de la communauté chrétienne à demeurer résolument dans une dynamique de paix.
Les évêques catholiques ont eux aussi donné de la voix pour le pardon. Michel Kartategui, archevêque du diocèse de Niamey.
Nous sommes tous des croyants au Dieu unique, musulmans et chrétiens. Nous avons en partage un enseignement sacré que nos saints livres nous offrent, la tolérance, le respect de l'autre, l'amour du prochain. Mettons-les en pratique comme le Tout-Puissant nous y oblige et nous serons alors des artisans de paix, honorés d'avoir apporté une pierre à la construction d'une société plus juste et plus solidaire.
Depuis ces événements, les appels au calme et au pardon se multiplient à travers plusieurs déclarations publiques. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique et sur le 101.9 FM à Arlit et à Agadez sur la radio Nomade. Ebola est une nouvelle fois au programme dans notre rubrique santé, mais les nouvelles semblent bien meilleures en ce début d'année 2015. L'épidémie Ebola semble enfin s'essouffler et les ONG et organisations internationales commencent à penser à l'après-Ebola. L'ONG Oxfam a appelé hier à l'adoption d'un plan Marshall pour aider à la reconstruction des économies des trois pays les plus touchés par Ebola, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. J'ai joint Mélanie Galland de l'ONG Oxfam, qui vient de passer 2 mois en Sierra Leone. Elle détaille ce plan Marshall de plusieurs millions de dollars.
Oxfam a demandé l'élaboration d'un plan de reprise économique des pays touchés par Ebola. Donc, ce qu'on veut dire par un plan Marshall, c'est un effort mondial massif et durable pour que la communauté internationale s'assure de prendre en charge la récupération. On demande que le plan couvre 3 des besoins aigus. Principalement, on parle d'une assistance financière immédiate aux familles touchées par la crise. On parle de l'investissement dans les emplois et on parle d'un appui budgétaire pour les services essentiels tels que la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement.
Oxfam appelle également à l'organisation d'une conférence internationale des donateurs, hein?
Oui, on appelle à une conférence internationale des donateurs pour lancer les plans de relance et on demande pour un soutien généreux des pays riches pour aider les efforts de reconstruction des vies et, important, mettre les économies sur le chemin du retour et de la croissance.
Et à combien se montrait ce plan Marshall?
Bon, on n'a pas de chiffre exact, mais on parle de plans pour des millions de dollars. Donc, on se base sur les chiffres de la Banque mondiale. Il ne faut pas oublier que les économies de ces pays sont détruites. Donc, on parle de montants importants pour assurer la relance économique de ces pays.
Mélanie Galland de l'ONG Oxfam. Éducation. En Guinée, les élèves ont repris le chemin de l'école la semaine dernière après 5 mois de fermeture à cause de l'Ebola. Au Libéria, les écoles vont, elles, réouvrir le mois prochain. Des signes de progrès dans ces deux pays qui ont été durement touchés par l'épidémie. Mais il y a encore des parents sceptiques. Les précisions de Michel Joseph.
Une question est récurrente et presque quotidienne pour les enfants de Samson Wessé au Libéria.
Papa, quand est-ce que nous allons retourner à l'école?
Ce père de famille salue la décision des autorités libériennes de rouvrir les écoles en février. Elles sont fermées depuis juillet à cause de l'épidémie d'Ebola.
Mes enfants restaient à la maison sans rien faire. Ils jouaient et couraient par-ci, par-là. Il n'y avait plus de cours et plus ils restaient à la maison. Davantage, ils s'ennuyaient.
Les autorités assurent que les écoles disposeront de tout le matériel sanitaire, comme des thermomètres et du chlore pour se laver les mains. Mais quelques parents, encore sceptiques, préfèrent garder leurs enfants à la maison, par simple précaution. Madame Christine Thomas veut d'abord que l'Organisation mondiale de la santé déclare officiellement qu'il n'y a plus d'Ebola au Libéria.
Ma crainte, c'est que si les enfants vont à l'école et reviennent avec l'Ebola,
ce ne sera pas bon pour les parents. Nous nous sentirons mal, alors nous espérons et prions pour qu'il y ait une petite discussion sur l'ouverture des classes.
En Guinée voisine, les enseignants ont les mêmes inquiétudes sur comment limiter les contacts dans des classes surchargées. Amadou Diallo, un maître d'école.
Pour cela, on sait qu'il y a 80 000 enseignants qui sont à ce jour formés par rapport à la réponse à Ebola, par rapport à pratiquement à toute la définition liée à cette maladie Ebola. Mais nous savons, dans les écoles, un peu peut-être la surveillance des enfants, ça va être vraiment compliqué parce que nous sommes tous passés par là, on connaît un peu comment ça se passe. La surveillance des enfants, surtout des tout petits, parce qu'on sait que lors des récréations, c'est des enfants qui se réunissent. On ne peut pas les empêcher là de se réunir. Ils se réunissent, ils mangent des fois la même chose, ils se partagent ce qu'ils ont. Je pense que la décision est une décision à risque.
L'Ebola se transmet par contact direct avec les fluides d'une personne malade. Les responsables de santé ont souvent minimisé les risques de contagion par simple contact avec un malade. En plus, quelques 80 000 enseignants guinéens ont reçu une formation sur l'Ebola. Plusieurs associations de la société civile avaient même menacé de protester si la rentrée scolaire n'avait pas lieu hier lundi. Maintenant, ces associations veulent se mobiliser pour vérifier si les écoles disposent de produits pour se laver les mains et que les températures des enfants sont prélevées quotidiennement, la fièvre étant l'un des premiers symptômes de l'Ebola. Les écoles ont été fermées pendant 5 mois en Guinée et au Libéria et des défis énormes persistent. La peur peut entraîner l'absentéisme. Par ailleurs, les fonds destinés aux écoles ont été transférés à la lutte contre l'Ebola. En Sierra Leone, les écoles sont toujours fermées. L'une des conséquences, selon Wangani Grace Nkoma Taulo de l'UNICEF, c'est que les grossesses des adolescentes se multiplient, ainsi que le travail des enfants.
L'impact du virus sur le système éducatif pourrait même inverser le progrès réalisé en Sierra Leone pendant des années.
Selon l'UNICEF, lorsque les écoles rouvriront en Sierra Leone, les enseignants pourraient être amenés à travailler de nuit, les week-ends ou jours fériés pour aider les enfants à rattraper le retard. En attendant, comme solution intérimaire en Sierra Leone et au Libéria, des cours sont diffusés à la radio et à la télévision, mais tous les enfants n'y ont pas accès et rien ne peut remplacer un enseignant magistral dans une salle de classe.
Culture pour finir l'émission au son de Mané Gabline d'El Ouad Leblad. Et donc nous prenons la direction de la Mauritanie. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme dénonce l'arrestation arbitraire du jeune rappeur mauritanien Amada Sidi Bouna. Il était l'un des 5 membres du célèbre groupe de rap El Ouad Leblad ou Fils du Pays. Le groupe a sorti un single intitulé « Gay Emeye » qui signifie « Dégage ». Les 4 autres membres du groupe ont dû fuir pour se réfugier à Dakar. Idriss Fall a joint Ababoukri Modj, secrétaire exécutif de la Rado.
C'est un jeune rappeur qui a été arrêté depuis mardi dernier, détenu à la prison centrale de Nouakchott. Les membres du groupe également qui ont fui la Mauritanie nuitamment sont arrivés au Sénégal. C'est le célèbre groupe qui s'appelle DAD qui dénonçait les pratiques de corruption et de malgouvernance en Mauritanie, la restriction des libertés fondamentales, qu'ils avaient sorti un single intitulé « Dégage ». À la suite de ce single, les proches collaborateurs du président de la République mauritanienne les ont approchés pour dire qu'il fallait qu'ils fassent sortir un autre single faisant les louanges du président de la République en guise d'échange par rapport à la libération de leurs collègues et même moyennant des sommes colossales d'argent et des dotations de véhicules. Ayant refusé cela, ils ont été donc tous poursuivis et finalement ils ont fini par quitter. Mais le camarade qui se trouve aujourd'hui détenu a été donc victime d'un complot. Le premier conseiller du président de la République, Abdelaziz, son fils même, ont usé de leur pouvoir pour qu'il soit détenu. Ce que nous considérons effectivement comme une détention arbitraire et une machination, parce que tout le monde sait aujourd'hui que la situation des droits humains en Mauritanie est une situation fort préoccupante.
Biram Daoud Abeid, leader du mouvement abolitionniste IRA, a été condamné à 2 ans de prison.
Suite simplement à une mission qu'ils effectuaient dans la vallée du fleuve Sénégal aux environs de Rosso Mauritanie, où ils dénonçaient également les pratiques d'esclavage. Depuis le mois de novembre dernier, ils étaient détenus, ils n'étaient pas jugés. Ils ont été jugés la semaine dernière. Ils ont été condamnés à des peines de 2 ans de prison ferme. Ce qui montre le visage aujourd'hui du régime mauritanien, qui est un régime très répressif.
Le président est le président en exercice de l'Union africaine.
Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a été légitimé par des élections à la suite de ce coup d'État. Cela même est un précédent dangereux pour l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, une fois que vous avez pris le pouvoir par la force, vous êtes écarté de la course des élections. Mais cette fois-ci, nous avons une mauvaise jurisprudence en Mauritanie. Parce que ce n'est pas le cas au Mali, quand il y a eu le coup d'État avec Sanogo, on l'a écarté. Ce fut le cas également en Guinée avec Moussa Dadis Camara. Mauritanie constitue une exception à la règle.
Aboubakri Mbodj, secrétaire exécutif de la RADO. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rediffusion ce vendredi à 18h, temps universel. À la réalisation, Michel Joseph. À la technique, Brian Marcoulier. Au micro, Claire Morin-Gibour. Nous nous quittons en musique avec Awad Leblad et le single Gayema, qui veut dire dégage. Un morceau critique à l'égard du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. نحن نمنى العدل بالسق جريمة بالحبس تزرقو حرام على الناس حلال على راسه ما يستفاد من حكمه ما وقوته صحابه ناس وهلو والله حد مصفق له قدره هادور يعدلوا اللنس قل فيهم ربحوا رجعلوا صفقات الدولة لقرباء وشوفوا خداعه حرباء ورجال الأعمال خدهم بصباعه ما عدلوا بالناس إلى شاعه. Rendez-vous mercredi prochain 18h temps universel sur VOA Afrique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. اليوم اخلاقيه وذرايه ما عنده صوغ ولا امبنايه هذا شنو من الجوع والجفاف اللي بلا نهايه هاي الحكومه قبولها برايا خزي بالشعب تاخذه في النهايه حكم عسكري كم من جنرال ما خاضر على القرايه هذا تمثيل رئيس الفقراء زرقهم في الترحيل ما عندهم عنايه بلا رعايه ما هو ما ما هو ضو ما هو ناقص الظلمه في الحكومه لقتنا قسمت ثروتنا رجال الاعمال في خرف سنه حكومتنا فرقت شرايحنا دنست عقيدتنا زادت مشاكلنا صعبت عيشتنا شوف عارف كل نهار طالع واحد اسمه نحن نعانو اسمه كبيرة موريتاني في حالة خطيرة شوف الشوع والجفاف عمو علينا السرقة والقتل كثروا فينا ما تلينا نقدو نسكتو الحقيقة ما هي خافية علينا نفاق بد علينا لا يخلينا عاد الناس تلاعب دينا هذا حرام الله يهدينا شعبي دورك تقيم قيم قيم سابق توحل شاك عنك بطل وانت Yeah.
ليت اقرق بيها منادم اللي يلق هو اللي يلق ومن اللق ما يشرق كلامي حق شو المواطن حاله ما يدرق سمع الحق لا يبلغ عدل يمزق ما يطبق قسما بالله ماني مجوع للحكومة.